explique la résistance dans la mémoire nationale avec François Azouvi et Paul Thibault. Résistentialisme. Ce néologisme, créé en 1987 par l'historien Henri Rousseau, désigne le mythe selon lequel les Français auraient unanimement et naturellement résisté pendant l'occupation allemande. Et, nous disent les dynamiteurs du mythe, il a fallu attendre 1971 et la sortie du film « Le chagrin et la pitié » de Marcel Ophuls pour que le cadavre de Vichy sorte du placard. Alors, le déferlement d'autosatisfaction a cessé, la France a commencé à regarder en face le triste spectacle de son effondrement moral entre 1940 et 1944. Les iconoclastes proclamés ont-ils raison? La vérité est-elle aussi médiocre et la mémoire officielle a-t-elle menti aussi longtemps qu'ils le disent? Ou bien ont-ils installé eux-mêmes un mythe historique et mémoriel sous l'apparence de son contraire? C'est la thèse que soutient François Azouvi dans son livre très documenté « Français, on ne vous a rien caché, la résistance Vichy, notre mémoire ». Nous allons y regarder de plus près et interroger cette démystification de la démystification avec François Azouvi et le grand témoin de notre histoire récente qu'est l'ancien directeur de la revue Esprit, Paul Thibault. Et d'abord, précisons les choses. Qu'est-ce qui est vrai, François Azouvi? Dans quel état d'esprit la France est-elle sortie de la guerre? Et comment s'est transmis, dans les décennies qui ont suivi, le souvenir des années noires? François Azouvi.
Merci. Ce qui est vrai dans la thèse officielle, c'est qu'il a existé, en effet, à la Libération et pendant quelque temps, ce que j'appellerais une version officielle des événements, version officielle dans laquelle la résistance et la France libre sont majorées. Et parfois, dans cette version officielle, on fait comme si la France s'était libérée toute seule, sans l'aide des alliés ou avec simplement l'appoint des forces alliées. Cette version officielle a en effet existé. Mais je fais remarquer deux ou trois choses à ce sujet. D'abord, elle a été de très courte durée. Il ne faut pas oublier que le général de Gaulle quitte ses fonctions en janvier 1946, donc très vite, et donc à supposer qu'il ait été ce grand mystificateur qu'on dit qu'il a été, sa mystification n'aurait été que de courte durée. Et puis, deuxième remarque, à cette version officielle, se sont opposés tout de suite quantité d'autres façons de se représenter la France des années noires et les Français pendant ces années noires. Et la version officielle n'a été qu'une toute petite partie du discours, du récit de la France de la guerre. Et enfin, je ferai remarquer une dernière chose, c'est que ce terme de résistentialisme n'est pas tout à fait un néologisme datant de 1987. En réalité, il a été forgé, avec une orthographe un tout petit peu différente, il a été forgé par les contemporains dès 1945. La première occurrence que j'ai trouvée du mot, c'est dans l'hebdomadaire communiste Action, sous la plume de Pierre Hervé, l'éditorialiste, qui s'en prend à ce qu'il appelle, avec des guillemets justement, parce que visiblement c'est un néologisme, à ce qu'il appelle résistentialisme, et qui désigne en gros l'inflation héroïsante de l'attitude des Français. Ça désigne aussi les résistants de la 25e heure, ceux qui occupent des places et qui n'ont pas fait grand-chose, etc. En gros, donc, à peu près la même chose que ce que les historiens contemporains appellent, eux, résistentialisme. Donc, ça veut dire que les contemporains ont tout de suite épinglé ce que j'appelle la version officielle des événements. Ils l'ont moqué, ils s'en sont moqués, et il y a suffisamment de traces de cette moquerie pour qu'on puisse penser que les Français n'ont pas cru un seul instant à cette version officielle des événements.
Oui, alors on s'en est moqué aussi à l'extrême droite, je crois.
Oui.
Parmi les nostalgiques de Vichy, oui. Parmi les ennemis oui. de la résistance.
Oui.
Ceux-là aussi ont désigné le résistentialisme comme un mensonge.
Bien sûr.
François Zouvi.
Et du reste, on a cru, et moi je croyais aussi avant de faire ce livre, que le résistentialisme, la dénonciation du résistentialisme à la libération, était le fait exclusif des nostalgiques de Vichy ou des nostalgiques de l'Europe allemande. Donc on le trouvait seulement à droite et à l'extrême droite. Et en fait, non. C'est un terme qui est neutre. On le trouve à gauche, on le trouve de façon neutre politiquement dès 1945. Mais évidemment que les nostalgiques de Vichy s'en sont emparés pour se moquer de la résistance et de la France libre, bien sûr.
Alors, une citation pour aller dans votre sens avant de donner la parole à Paul Thibault, c'est cet admirable article de Jean Kelevitch dans L'honneur et la dignité que les temps modernes ont publié en 1948, c'est-à-dire très peu de temps, en effet, après la libération. La France, croupion du maréchal, était viable, les trains circulaient, les bourgeois allaient en vacances et au sport d'hiver, les conférenciers faisaient leurs conférences, nos célèbres chefs d'orchestre dirigeaient avec entrain, etc. Et nous apprenions avec stupéfaction que Paris avait ses événements littéraires, son théâtre, ses garçons de café hégéliens, et tout ce qu'il faut à un grand pays pour tenir son rang. Et il ajoute un peu plus loin, il faut le dire, le régime de l'État français correspondait aux vœux d'une partie de la France qui se reconnut en lui instantanément. Le mot « gâtisme » en résumerait assez bien l'essence. Une équipe de gâteux précoces groupés autour d'un képi à feuilles de chêne. Voilà ce qu'on disait, ou ce quand même un grand penseur disait en 1948. Paul Thibault.
Oui, évidemment, François Zouvi a tout à fait raison. Il y a eu la dénonciation de l'épuration a été de ce côté-là un point fondamental. L'épuration a été mal faite et ne peut être que mal faite. Il y a eu des approximations, des injustices, etc. Alors on a majoré les chiffres, on a parlé de plus de 100 000, on dit actuellement 15 000, mais moi je ne suis pas spécialiste. Donc il y a eu cette critique de l'épuration. Mais surtout ce qu'il y a, c'est que il y a eu quelque chose qui a été important et à laquelle il faudrait rendre justice. Et au fond, c'est le mythe du 25 août 44, l'extraordinaire discours de De Gaulle à l'Hôtel de Ville, suivi le lendemain par le triomphe de l'Arc de Triomphe, justement, général De Gaulle. Et ce jour-là, si vous voulez, il y a une vérité. C'est que tout de même, les Parisiens se sont révoltés, du moins certains d'entre eux. Ils ont pris des risques qui, transposons-nous à Varsovie, il y a une symétrie, mais ça fonctionne pas du tout de la même manière, parce que les gens qui sont à l'extérieur veulent que la résistance réussisse dans un cas et qu'elle soit écrasée dans l'autre. Enfin, ça, en plus, bon, il y a Eisenhower, il y a Churchill, il y a Leclerc, etc. Il y a toute cette expérience qui est venue au secours de la résistance, mais laquelle a existé. Et ces gens qui se sont lancés dans des entreprises assez ridicule militairement, ils ne savaient pas comment ça allait tourner, si vous voulez. Et le grand soulagement d'avoir fait quelque chose pour sa propre libération, ce qu'a dit De Gaulle à l'Hôtel de Ville, enfin bon...
C'était Paris martyrisé, c'était ça ?
Oui, Paris...
Paris outragé, mais Paris libéré, voilà.
Par lui-même, voilà. Etc. Mais ça veut dire, pas seul, mais il a participé à sa libération. Et c'est une chose tout à fait importante, et il y a eu probablement ce jour-là et quelques temps après l'illusion que le peuple dans sa masse avait rejoint la résistance, enfin les FFI avaient rejoint Leclerc, si vous voulez, quoi. C'était quelle belle retrouvaille, n'est-ce pas? Il y avait une partie de vérité à laquelle il faudrait probablement actuellement rendre justice. Il y a des gens qui ont pris des risques, et puis c'est tout. Et puis alors, en même temps, si vous voulez, bon, je voudrais probablement discuter avec vous sur le schéma mystique politique que vous appliquez à cette situation, si vous voulez. Il y a ceux qui ont lutté pour les valeurs essentielles, pour la survie de la nation, en définitive, et ceux qui ont bricolé en attendant, etc., etc. Est-ce qu'il faut les opposer ? Alors, comment fonctionne le rapport entre ces deux niveaux ? Le niveau de la politique sublime et de la politique réaliste. C'est une des questions permanentes qu'on se pose en lisant votre livre.
Alors oui, en effet, c'est vrai, Peggy est très présent dans votre livre.
Y compris
Peggy,
à la fin.
Le Peggy de notre jeunesse, celui en effet qui oppose, et cette opposition assez célèbre, mystique et politique, en disant, répondant à Daniel Halévy, Apologie pour notre passé, nous fûmes des héros, nous ne regrettons rien, simplement la mystique de l'affaire s'est dégradée en politique, comme c'est très souvent le cas. Et il est vrai, François Azouvi, que vous appliquez ce schéma à la résistance et à ses différents avatars. François Azouvi.
Oui, vous avez raison, mais c'est pas moi qui l'applique. C'est ça qui m'a frappé, c'est que ce sont les résistants eux-mêmes, et dans un très grand nombre, j'allais presque dire dans leur majorité, ce sont les résistants eux-mêmes qui ont décrit leur combat comme une mystique. Alors, ils ont employé différents termes, mais très souvent, celui de mystique. Plusieurs d'entre eux ont dit c'est d'une affaire religieuse qu'il s'agit, d'une affaire de foi. Et peu importe d'ailleurs l'issue du combat, et même si le combat devait se traduire par une défaite, eh bien, nous aurions quand même eu raison de le mener. Donc, ce n'est pas moi qui ai appliqué ce schéma de la mystique qui se dégrade en politique, ce sont les résistants eux-mêmes. Et ce que j'ai simplement essayer de faire, c'est de prendre au sérieux leur désignation, leur auto-désignation comme mystique, et de voir dans quelle mesure il s'est agi avec la résistance d'une sorte de crise d'entreprise sacrée, investie de sacré. Et il m'a semblé que par plusieurs traits, l'expérience résistante méritait en effet le nom de mystique. Alors bien sûr, il faut tout de suite corriger mystique laïque, il faut séculariser évidemment cette expérience résistante, mais il s'agit quand même de quelque chose qui est de cet ordre-là.
Mais la dégradation en politique, elle s'est traduite comment avec la résistance ? Est-ce que c'était déjà vrai ? Dans la résistance, à travers les conflits entre les différentes tendances, les différentes sensibilités, ou est-ce que c'est un phénomène postérieur à la résistance, quand effectivement la belle fraternité du combat a éclaté avec le retour de la prose ?
Moi, je crois que c'est un phénomène postérieur. C'est un phénomène postérieur à la résistance. Qu'il y ait eu des rivalités, des combats, des règlements de comptes, etc. pendant la guerre, bien entendu. Mais le fait est que c'est après la guerre que les résistants ont éprouvé eux-mêmes, et l'ont dit, cette dégradation de leur mystique en politique. Alors, il y a eu entre eux des affrontements terribles dans les années qui ont suivi la guerre. Il y a eu des déchirements. Si on suit ces déchirements, eh bien, on voit toute la France de l'après-guerre défiler. Donc, cette mystique s'est effectivement dégradée en politique. Et il m'a semblé que ce couple mystique-politique renvoyait en réalité à ce que j'ai appelé deux strates de la mémoire de la résistance. Il me semble que la résistance elle-même, dans sa pureté, a été quelque chose comme une mystique, et qu'il s'est conservé une mémoire de cette strate, une mémoire que j'appelle mystique, mais qui est une mémoire qui ne s'use pas avec le temps, une mémoire non historique. Et d'autre part, il y a une mémoire de l'événement comme historique, de l'événement dégradé en politique, et cette mémoire, elle subit l'érosion de tous les événements historiques, elle subit cette dégradation en politique que l'on peut voir dans tous les événements historiques.
Paul Thibault.
Oui. D'abord, un phénomène très général, c'est-à-dire qu'il y a, si on n'oppose pas mystique et politique, mais la politique sublime, si vous voulez, quand l'essentiel est en cause, et la politique de tous les jours, quand on s'affronte sur des intérêts, sur des idéologies, etc. Et les deux coexistent, quelquefois, se rencontrent, et coexistent pas longuement. Par exemple, Churchill a perdu le pouvoir en même temps que De Gaulle. Clémenceau La carrière de Clemenceau se termine en 1918. Il vivra encore 10 ans. Et c'est un homme qui est complètement sorti de la politique. Et là, on a des exemples très très clairs. Il y a une difficulté constante. Il n'empêche que quelquefois, et je pense que c'est le cas de l'affaire Dreyfus, le sublime peut infuser peu à peu dans le politique ordinaire et changer la donne. Si vous voulez, avant la guerre, vous avez un parti catholique entre Barrès et Maurras, si vous voulez, quoi, qui n'existe plus après la guerre de 14. Il y a une espèce d'effet à terme de la mystique représentée par Maritain et Péguy, qui sont les grands hommes du monde catholique après la guerre. Il y a rupture avec Maurras à l'incitation du pape, etc. Vous avez, alors, la mystique a peu à peu changé la donne, et le monde catholique qui sort de la guerre de 14 n'est pas du tout le même que celui qui a cotisé pour le monument Henri, si vous voulez, qui est tout à fait caractéristique de ce monde-là. Donc il y a là une infusion qui s'est passée, avec des difficultés, mais ça, elle s'est passée. Alors que dans le cas de l'Harrison de la France Libre, moi je vois une mystique, un sublime qui est resté et qui n'a pas infusé, si vous voulez, quoi. Le sommet, enfin vous en parlez, comme tout le monde, c'est la canonisation de Jean Moulin, allez, employons un mot religieux, mais parce que c'est pas l'entrée au Panthéon, c'est autre chose, c'est beaucoup plus, grâce à Marlon en particulier, grâce aussi à la présence de Gaulle lui-même et de tous ceux qui sont derrière et qui faisaient un ensemble aussi impressionnant. Alors là, il y a une affirmation de la mystique, mais c'est tout. On en reste de la même que le 25 août et à propos de De Gaulle, vous dites qu'il n'a jamais, lui n'a jamais dit que tous les Français avaient été résistants. Il était payé pour savoir que ça n'était pas vrai. Il n'était pas du genre à mentir sur des choses comme ça. Si vous voulez ça, c'est absolument impossible. Mais il a une politique de commémoration constante, dont le sommet Jean Moulin.
Mais pourquoi ça n'aurait pas infusé? Malgré justement l'entrée de Jean Moulin au Panthéon et malgré le discours que tout le monde a reconnu comme sublime, pour reprendre votre mot à tous deux, d'André Malraux. Pourquoi dites-vous que ça n'a pas infusé?
Pourquoi ça n'a pas infusé? Pour moi, c'est la question qui se pose, si vous voulez. Parce que après, le retournement, etc., ce sont des conséquences de ça. Parce qu'il aurait fallu des intermédiaires. Alors, il y a eu deux propositions. Il y a la proposition communiste, en gros, l'impétus révolutionnaire, ou la position de Bourdet, d'ailleurs, aussi, dans ce très beau livre, L'aventure incertaine. Hein. Il faut continuer en faisant la révolution. Alors, à ce moment-là, ça infuse, si vous voulez. On change la société à partir de cela. Bon, ça n'a pas marché, en partie, parce que les communistes avaient trop de place. Et il y a un jeu de faux cul sur la résistance du Parti communiste qui était quand même difficile à éviter. De l'autre côté, il y a la proposition de Raymond Aron, en fait, qui est que il faut faire un péténogaullisme, c'est-à-dire on a eu les deux politiques en même temps, etc. Et ça n'a pas marché, ça n'a pas marché non plus.
François Zouvi, puis j'interviendrai après.
Oui, je suis pas tout à fait d'accord avec vous, Paul Thibault. Il me semble que la mystique de la résistance a infusé. D'abord, elle a infusé, très concrètement, juste à la Libération, sous la forme du programme du Conseil National de la Résistance. C'est pas rien, quand même. Nous en vivons encore, alors on peut souhaiter s'en défaire ou pas, j'en sais rien. Mais enfin, quand même, ce programme nous a porté pendant depuis la fin de la guerre. Bon, ça c'est une première chose. Et puis, il me semble que, au contraire, cette mystique de la résistance n'a cessé d'être présente, alors de façon plus ou moins sourde. Mais j'en prends, si vous permettez, un exemple sur lequel j'insiste un peu longuement, peut-être trop longuement, qui est la guerre d'Algérie. Pendant ces 8 ans de la guerre d'Algérie, la mystique de la résistance a joué un rôle absolument considérable. Elle a été incroyablement présente, et ce, dans les deux camps. C'est ça qui est tout à fait frappant. Les partisans de l'Algérie française et les partisans de l'Algérie algérienne n'ont cessé de convoquer tout le vocabulaire de la guerre, de la résistance, du maquis, de la Gestapo, de la SS, etc. et ce, des deux côtés. Donc, dire que la mystique de la résistance n'a pas infusé, il me semble que c'est quand même passer trop rapidement par perte, d'abord cette phase de notre histoire.
Mais on pourrait dire que c'est autre chose d'infuser, précisément, c'est-à-dire d'influencer positivement la politique et d'être une référence obsessionnelle, car la référence obsessionnelle peut elle-même aveugler, c'est-à-dire on estime que le FLN c'est la résistance, et puisque c'est la résistance, son caractère islamique est totalement passé sous silence, on ne sait plus ce que veut dire même le mot Mujahid, etc., et les crimes commis des deux côtés sont passés sous silence, puisque ils sont exaltés et donc oubliés au nom de la résistance. Alors c'est peut-être autre chose que l'infusion dont parle Paul Thibault.
L'obsession est une des modalités de l'infusion.
Oui.
Vous faites allusion à la façon dont peut-être cet héritage a masqué les crimes du côté FLN, bien sûr, mais l'inverse est vrai aussi. Il me semble que le radicalisme, l'espèce de démarche quasi-suicidaire de l'Algérie française jusqu'à l'OAS inclus, jusqu'à Bidault décrétant un nouveau Conseil national de la résistance en 62, a quelque chose à voir avec ce que vous appelez obsession et que moi j'appelle infusion.
Moi, je n'appellerais pas ça infusion, parce que c'est une mémoire purement négative. C'est la mémoire de la mauvaise France. Alors, vous avez cité le CNR, effectivement. C'est l'exception au programme du CNR. Quelle est son importance historique? On peut en discuter. Mais enfin, bon, ça existe, hein, je ne conteste pas. Et ça, pour moi, c'est une infusion. Mais ce n'est pas une infusion quand on se réclame comme Bidault ou comme n'importe qui, enfin, ou comme les porteurs de valises, comme etc. Les gens qui ont appuyé le FLN sans aucune critique, d'une position qui est une position révolutionnaire critique, qui emprunte son modèle à la résistance, en partant du point de vue que cette résistance est le fait de quelques-uns, et nous on sera à nouveau les quelques-uns, et on répète une histoire qui est une histoire de non-infusion, justement. C'est ça, comprenez. Et on se ronge les sangs, comme disait ma grand-mère. Pourquoi il y a cette espèce de pente autodestructrice dans la mémoire de la résistance, si vous voulez, ça qui est important. Et contre cela, la mémoire gaulliste et marloïcienne, si vous voulez, quoi, elle flotte. En général, on ne la critique pas de front, on critique le fait qu'elle soit appropriée.
Oui.
Et on cherche à se mettre à nouveau dans ces positions-là.
Et puisqu'il s'agit peut-être d'une projection, de Gaulle passant dans le mauvais camp devient une résurrection de Pétain, voire pire, puisque précisément il n'a pas fait ce qu'il fallait faire, ou il ne l'a pas fait à temps. En 1958, elle a été portée par l'Algérie française, etc. Donc il y a cela aussi. Mais je voudrais maintenant que nous en venions quand même au grand retournement, parce que on parle beaucoup de la résistance pendant les décennies qui ont suivi la guerre. On ne nie pas la réalité de l'occupation, ni que Vichy était populaire. Des livres, des films le montrent. Vous le dites, François Azouvi, et votre démonstration est tout à fait convaincante. Et puis tout d'un coup, 1971, 3 ans après 68 quand même, et ça doit compter, Marcel Ophuls, Le chagrin et la pitié, et aux grandes dames de certains résistants eux-mêmes, hein, dont Simone Veil, mais pas, enfin, elle c'était une déportée, mais de certains résistants eux-mêmes, dont je crois Geneviève Antonius de Gaulle.
Oui, Lise Postel-Vinet.
Et voilà, et donc, les témoignages sont très importants. On nous explique, non, que les Français étaient très contents, que la résistance a été un phénomène extrêmement marginal, que la France s'est poussée du col parce qu'elle s'est laissée enchanter par le récit gaulliste. Alors, il est vrai qu'il y a eu le discours du 24 août et l'ordonnance du 9 août 1944. De Gaulle, on lui demande de proclamer la République, il dit non, puisque la République, en fait, n'a jamais cessé d'exister, sont en conséquence nuls et de nul effet tous les actes constitutionnels, législatifs ou réglementaires promulgués sur les territoires continentaux postérieurement au 16 juin 1940 et jusqu'au rétablissement du gouvernement provisoire de la République française. Mais de nul et non avenu, on a pu aller jusqu'à nul et non advenu. C'est un peu ça, le risque, c'est un peu ça, la tendance.
Ça n'est que la répétition de la déclaration de Brazzaville, de Cassin. Il n'y a plus de gouvernement proprement français.
Oui, voilà.
Paf. Ça, c'est gonflé, ça.
Oui, c'est gonflé.
Bien sûr. Bien sûr.
Alors, mais donc, que s'est-il passé? Pourquoi le film de Marcel Ophüls a remporté un tel succès, d'une part, et pourquoi a-t-il, justement, fait croire aux Français qu'ils avaient cru quelque chose qu'ils n'ont jamais cru? François Azoulay.
Je vais essayer de vous répondre, quoique ce retournement est pour moi aussi quelque chose de mystérieux, mais je voudrais auparavant revenir un tout petit instant sur cette soi-disant occultation de Vichy. Alors, vous avez dit vous-même que ça n'a pas été le cas, mais je voudrais y insister un tout petit peu. En réalité, cette occultation de Vichy donc n'a jamais existé. Les Français, à aucun moment, n'ont oublié qu'ils avaient connu le régime de Vichy, le maréchal Pétain, les déportations. Ils ont su tout ça. Et d'ailleurs, comment ne l'auraient-ils pas su? Il y a quelque chose d'absurde dans la thèse qui veut nous faire croire que les Français, en 1945, par un décret extraordinaire du général de Gaulle, auraient tout d'un coup gommé 4 ans de leur vie. C'est simplement absurde. Donc, ces années noires ont été présentes à leur esprit. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de mystérieux dans la façon dont les Français applaudissent inconsidérément, non seulement au film d'Ophüls, mais à toute la série de films qui suit dans la décennie 70, et qui donne de la France une image soi-disant inverse de celle qui avait eu cours auparavant, qui montre une France collabo, avachie, se précipitant dans le marché noir et dans la collaboration, etc. Alors, comment comprendre ce retournement? Il m'a semblé que pour le comprendre, il fallait passer par la très profonde transformation qui s'est opérée exactement dans ces mêmes années, un peu partout en Occident d'ailleurs, pas seulement en France, transformation qui a fait que le modèle héroïque qui prévalait jusque-là, dans notre échelle de valeurs implicite et explicite, le modèle héroïque a été remplacé par le modèle victimaire. C'est la victime qui occupe désormais la première place dans notre échelle de valeurs, je crois. Et cette transformation s'est opérée dans les années 60-70. Et il me semble que c'est là, on tient là peut-être l'explication de ce retournement. Jusque-là, ce qui était proposé à notre admiration, c'était le héros, tandis que à partir des années 70, il ne s'agit plus d'admirer le héros, il s'agit de plaindre une victime. Une victime à l'égard de laquelle, nécessairement, on se sent coupable. Et c'est cette culpabilité qui est tombée sur les Français et qui a fabriqué, à mon sens, ce que Henri Rousseau, que vous évoquiez au début, a appelé le syndrome de Vichy. Ce syndrome de Vichy, je crois qu'il ne date pas du tout de 1945, je crois qu'il date des années 70, et il est l'expression psychiatrique, si l'on veut, de cette culpabilité qui est tombée sur la France.
Paul Thibault,
oui, mais je suis pleinement d'accord avec ce que vous dites, mais encore faut-il expliquer pourquoi ce modèle victimaire s'installe. Alors il y a le procès Eichmann d'abord, etc. Il y a toute la guerre des six jours aussi, c'est important ça, si vous voulez. Il y a toute cette nouvelle question israélienne, si vous voulez, qui se présente. Et ça joue un rôle au second plan qui est très important. Mais ceci étant, je pense que la non-infusion, la séparation des liquides, si vous voulez, le liquide sublime et le liquide vulgaire, parce que le pétainisme, on peut discuter, il y a beaucoup, il y a par exemple la collaboration pur jus, est très faible en France, très faible, beaucoup plus faible que dans des pays, dans des pays voisins. Vous donnez des chiffres tout à fait intéressants à ce sujet-là. Mais Vichy est accepté comme une transition, un repos, une autoprotection, une façon de ne pas trop se mouiller, etc. C'est une espèce de lâcheté instituée, si vous voulez. Bon, alors on est resté, si vous voulez, on n'a pas réussi à se libérer de ce fiel de Vichy en créant une ambition historique qui aurait permis d'aller plus loin. C'est là que ma comparaison avec Dreyfus est me paraît pour moi éclairante. On n'est pas allé plus loin. Alors quand on reste sur place, la mémoire, elle est devenue empoisonnée parce que personne ne peut vivre sur une dichotomie entre ce qu'on aurait dû être et ce qu'on a été, si vous voulez, sans que ça s'aigrisse, si vous voulez. Hein. Alors, vous avez une des références les plus neuves que j'ai trouvées dans votre livre, c'est celle de Vialatou, qui est un philosophe lyonnais et démocrate chrétien, où il y a ces formules tout à fait intéressantes. Il dit que en 1945, c'est le problème du 25 août, si vous voulez, les Français se sont fait ont changé leur opinion a posteriori. C'est-à-dire que c'est pas la mauvaise foi. Ils ont jugé eux-mêmes qu'ils avaient mal apprécié la situation en 1940. Ce qu'ils n'ont pas vu, c'est très, très clair. Ce que Maritain opposé à Saint-Exupéry ou De Gaulle ont dit, ils se nourrissent de la défaite. Vichy, c'est pas simplement une protection, c'est le culte de la défaite, c'est l'identification à la défaite. Et c'est là que se trouve l'impossibilité du compromis. Aron se trompe de ce côté-là, si vous voulez. Donc, impossibilité du compromis. Et impossibilité d'aller plus loin en même temps, puisqu'il n'y a pas eu d'élan. Alors donc, ça pourrit sur place. Et le victimisme est le résultat de cette décomposition.
Alors, je vais essayer d'apporter une petite contribution. Alors, d'abord pour dire que la meilleure réponse au chagrin et à la pitié, je l'ai trouvée dans ces propos de Geneviève Antonioz de Gaulle que vous rapportez, François Azouvi. Ce serait absurde de dire que tous les Français ont été des résistants, mais la résistance n'aurait pas existé, elle n'aurait pas pu naître s'il n'y avait pas eu dans le peuple français un consensus très profond. La résistance fut un combat auquel ont participé des hommes et des femmes de toutes opinions politiques et religieuses, de toutes les régions de France et de tous les âges. Et ces hommes et ces femmes représentaient à eux seuls un peuple tout entier qui les soutenait et les comprenait. Voilà ce qu'elle dit, voilà ce qu'on a du mal à entendre, mais le victimisme
était... Je crois qu'ils l'ont cru, oui. Ils parlent de vraiment, enfin pour elle.
Oui. Mais bien sûr, et je suis pas sûr qu'elle ait eu tort. Mm-hmm. Et le victimisme est-il seul en cause? Alors le victimisme, c'est déjà un trait paradoxal, c'est la centralité progressive de la Shoah, donc ce serait en apparence au bénéfice des Juifs... Et c'est devenu la nouvelle tragédie des Juifs, puisque de ce victimisme est née la concurrence victimaire. Et puis surtout, avec la guerre des six jours, les Juifs ont changé de statut. Ils sont passés de victimes à vainqueurs, et on a dit de vainqueurs à conquérants. Et donc la nouvelle hostilité aux Juifs se nourrit justement de la Shoah pour dire « vous avez trahi votre vocation, vous n'êtes plus ce que vous étiez, vous n'êtes plus Juif, donc on peut vous haïr ». Oui, puisque vous n'êtes plus juif. Bon, mais je ferme cette parenthèse, c'est une toute autre question. Simplement, j'en viens par exemple à un livre dont vous traitez brièvement, François Azouvi, l'histoire mondiale de la France. C'est quand même très intéressant, l'histoire mondiale de la France, parce que l'idée de l'histoire mondiale de la France, c'est d'en finir avec le roman national, avec ce que Patrick Boucheron avait appelé dans sa leçon inaugurale au Collège de France, la déplorable régression identitaire qui poisse notre modernité. Et donc, on fait le vide, c'est-à-dire une histoire mondiale de la France qui fait le vide en France. La France n'est rien qu'une suite d'aventures un peu chaotiques, et quand il y a du bien qui en surgit, ça ne vient pas de la France elle-même. Donc, le 18 juin, c'est quand même extraordinaire, hein, le 18 juin disparaît, alors que c'est une histoire par date. C'est ça, c'est pour ça d'ailleurs, c'est d'où son succès. C'est pas une narration comme ça, pour briser le récit national, pour introduire de la discontinuité, on dédate. En 1940, tout d'un coup, c'est pas le 18 juin. C'est le 28 août, Brazzaville devient la capitale de la France libre. La France libre, nous dit-on, n'a pas été londonienne, elle a reposé sur un assemblage de territoires coloniaux pour rappeler que, précisément, un certain nombre de régiments ont été composés de davantage d'Africains que d'Européens. C'est dire la nature cosmopolite de la France libre, véritable richesse par sa diversité qui marque l'esprit. Donc là, je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que on projette aussi sur le passé les catégories d'aujourd'hui. Ou alors, je vais dire les choses autrement. L'héroïsme n'a pas complètement disparu. Et je vais être aussi bref que possible, excusez-moi. L'affaire Arnaud Beltrame, elle vous intéresse peut-être. Arnaud Beltrame a été célébré en tant que héros. Mais tout d'un coup, la plaque sur le jardin Arnaud Beltrame dit « victime de son héroïsme ». Qui est quand même inouï. Victime de son héroïsme aurait été une faute. S'il avait été lâche, il s'en serait sorti. Donc, c'est une insulte à sa mémoire et une insulte à l'héroïsme. Simplement, l'héroïsme, c'est face à l'ennemi. La France d'aujourd'hui ne veut pas avoir d'ennemis parce que le territoire de l'autre est occupé par le sans-défense. Le migrant. Le migrant qui est le nouveau juif, en plus. Et on va faire mieux que les générations précédentes. Et donc, l'héroïsme suppose une certaine virilité, il faut bien le reconnaître. L'héroïsme, c'est une qualité de ce type. Et la qualité majeure de notre temps, la vertu de notre temps, c'est le care. C'est pas l'héroïsme, c'est le care. C'est donc pas Jean Moulin, c'est les infirmiers et les infirmières, dont je salue aussi l'abnégation et le courage. Mais vous voyez bien que tout change, tout change. Et tout change aussi avec cette nouvelle image d'une France repliée sur elle-même, qui ne sait pas accueillir les autres, et si on mobilise les images de la guerre de 39-45, c'est précisément pour dénoncer cette France-là, cette France qui serait une forteresse, qui ne respecterait pas les droits de l'homme, et qui devrait s'ouvrir si elle voulait être fidèle précisément au double héritage, si vous voulez, de la déportation et de la résistance. Excusez-moi d'avoir été si long.
Je voudrais répondre à beaucoup de choses de votre intervention, je ne pourrais pas. Mais je voudrais simplement rebondir sur ce que vous avez dit à la fin. Je crois qu'il y a en effet une très profonde ambiguïté dans notre relation, aujourd'hui et depuis quelques décennies, dans notre relation à l'héroïsme. Tout à la fois, on admire évidemment le héros, parce que le courage n'a pas cessé d'être une vertu, mais en même temps, on le soupçonne. Dès qu'on prononce le mot héros, on se demande, est-ce que c'est un tartuffe? Est-ce que c'est un tartarin? Qu'est-ce que ça cache? Il y a cette ambiguïté. Et le meilleur symbole de cette ambiguïté, me semble-t-il, je l'ai trouvé dans les manuels d'histoire et dans les recommandations officielles adressées aux professeurs d'histoire, dans les manuels d'histoire de première et de terminale. Au sujet de la Seconde Guerre mondiale, dans les manuels de première, on explique la guerre, on explique la France libre, on explique la résistance et on fait droit à ces événements en les décrivant comme quelque chose d'héroïque, comme quelque chose qui est à la gloire de la France. Et dans les manuels de terminale, à propos de la Seconde Guerre, on apprend l'inverse. On apprend que la résistance et la France libre ont donné lieu à un mythe, au mythe du résistentialisme sur lequel vous aviez commencé, et que toute cette entreprise est finalement profondément suspecte. Donc nous sommes face à l'héroïsme dans une situation de profonde ambiguïté. Prenez par exemple la façon dont tous les présidents de la République viennent puiser dans le registre de la résistance et de la guerre pour se donner une légitimité. Ils vont inaugurer des musées sur la résistance, ils vont apposer des plaques, ils vont donner des funérailles nationales aux héros de la résistance. Il n'y en a pas un qui ait manqué à l'appel. Donc, cette infusion, ce que vous appeliez tout à l'heure, Paul Thibault, l'infusion de la résistance, elle se manifeste encore dans la façon dont les présidents de la République viennent puiser dans cet héritage, à preuve qu'il a encore cours, à preuve qu'il vaut encore et que, au fond, il nous fait encore vibrer ou il peut nous faire monter les larmes aux yeux lorsque nous lisons le discours de Malraux ou d'autres. Et en même temps, nous nous défions des héros et nous les soupçonnons très profondément d'avoir été plus ou moins des imposteurs.
Oui, là, il s'est passé quelque chose d'important avec le discours du Veldiv de Chirac. Ah. Il a essayé de conjoindre, si vous voulez, la mémoire héroïque et la mémoire banal, ordinaire, et il est tombé dans un... Non seulement il a dénoncé la participation du gouvernement de Vichy à la déportation, notamment à la rafle du Veldiv, ce qui était une chose connue et reconnue depuis des dizaines d'années, et vous avez le tort dans votre livre, vous-même, de dire qu'il a fait ça comme si c'était une nouveauté. Et en plus, et le problème, c'est pas celui-là, c'est celui de ce qu'il a rajouté, la phrase de trop, la France, ce jour-là, a commis l'irréparable. Alors donc, la France. Alors là, quand on a dit la France, on rapporte la résistance et la lâcheté à la France, si vous voulez, et surtout la lâcheté, d'ailleurs, dans ce cas-là. Et là, à ce moment-là, la France se noie dans la lâcheté, le noie. Et curieusement, aucun de ceux qui ont accompli ce rite chiracien après n'est revenu là-dessus.
Non, ils ont même surenchéri. Ils ont même surenchéri, c'est-à-dire que...
Y compris Macron.
Effectivement. Peut-être qu'on aurait dû dire de manière un peu plus claire, avant Chirac, l'État français a commis l'irréparable. Ça leur a coupé l'herbe sur le pied. Voilà, il a quand même bénéficié aussi de certaines ambiguïtés du précédent président de la République, vis-à-vis de Pétain, etc.
Oui,
mais
oui.
Je suis d'accord avec vous, Paul Thibault. Il a eu cette phrase, à mon avis, malheureuse, parce que... Que devenaient les résistants qui étaient morts pour la France, qui incarnaient la France, quand il dit « la France a commis l'irréparable ». Mais ensuite...
Mais en même temps, il dit « la France était à Londres ».
Oui, c'est vrai, vous avez raison, vous avez raison. Mais ensuite, ça a été une sorte de... chaque discours voulait être une performance pénitentielle et chaque perf appelait son dépassement. C'est-à-dire que François Fillon a dit « les Européens ont eu l'idée folle de la Shoah, la France et l'Allemagne ». François Hollande « la vérité, c'est que ce crime fut commis en France par la France ». Et Emmanuel Macron, en effet, en 2017, « le racisme et l'antisémitisme étaient présents dans la Troisième République, l'affaire Dreyfus en avait montré la virulence ». L'affaire Dreyfus aurait pu montrer que, effectivement, Dreyfus avait eu raison, et c'est ce qui avait frappé toutes les communautés juives d'Europe centrale, de Pologne. Comment ça se fait? Il y a un pays d'Europe où on se dispute pour les Juifs.
C'est la
pièce de Jean-Claude Grimbert, Dreyfus.
Bien sûr.
Donc, mais ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que, là, il ne s'agit même... Enfin, on n'en est pas à gommer Vichy, comme on le reproche aux gaullistes, mais à gommer l'occupation.
Absolument.
Pour ne voir que Vichy. D'ailleurs, vous l'avez dit, Paul Thibault, vous avez fait une réponse, et vous êtes attiré une réponse très très véhémente du rabbin Corsia dans Le Figaro. Mais en effet, ça c'est très intéressant et très inquiétant, c'est-à-dire, et là ça rappelle cette déclaration, enfin ces mots de Malraux, que vous citez, François Zouvi, quel pays aura éprouvé autant que le mien le besoin de se cracher à la figure? Tous les Français n'étaient pas avec la résistance, point d'interrogation. Tous ceux de la Révolution étaient-ils avec les soldats de l'an 2? Tous ceux du Moyen-Âge avec les croisés? Tous ceux de l'Empire à Austerlitz? Quel cancer pousse ce pays qui fut quelquefois si grand pour le monde à ne vouloir élire que son néant?
Oui, la phrase est magnifique et préménitoire, mais je pense qu'il y a dans la revendication victimaire ou dans la posture victimaire, il y a quelque chose qui appelle la surenchère. Et ce que vous disiez me confirme dans ce sentiment, ce qu'on appelle la concurrence des victimes. Il n'y a pas ça dans le modèle héroïque, en fait. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il n'y a pas ça. En revanche, avec le modèle victimaire, on est dans cette recherche de toujours plus victimes. Et je pense que cette mutation qui fait que nous sommes aujourd'hui dans le registre victimaire, elle a des avantages évidents, mais elle a des inconvénients terribles.
Mais alors, Paul Thibault, vous disiez que si la résistance avait vraiment infusé, ça se manifesterait à travers une certaine ambition. Et le mot, je l'ai retenu, il est très important. Il me rappelle un débat qui a eu lieu pour la revue Le Contrepoint entre Pierre Manant et Jean-Claude Milner. Et il dit, Manant pose la question, la Shoah a-t-elle radicalement délégitimé, déshonoré l'Europe et les nations? Et Manant, j'essaie de répondre d'une façon qui permette à nos nations de continuer à exister avec un sentiment d'elles-mêmes qui ne soit pas dévoré par un sentiment d'indignité. Milner lui dit non, l'indignité est là, et dans son livre Considération sur la France, il dit la défaite de 1940 a rendu inarticulable le nom de français. C'est une radicalité inouïe comme diagnostic, mais justement, c'est-à-dire que si on tient ce raisonnement là, à ce moment-là, c'est pas l'ambition qui peut caractériser la politique, c'est la rédemption. Et la rédemption, elle passe par l'application rigoureuse et exclusive des droits de l'homme. C'est-à-dire les droits de l'homme, effectivement, qui doivent jusqu'à nier même la différence, puisque c'est l'homme, entre le citoyen et l'étranger. C'est-à-dire l'ouverture. Une ouverture aussi grande que possible pour justement se racheter de ce crime innommable, pour ne plus exclure, pour ne plus discriminer personne. Et évidemment, est-ce cela notre problème ? Avoir choisi la voie de la rédemption pour un crime dont on mesure l'ampleur, mais dont on n'a peut-être pas très bien compris la nature.
Paul Thibault. Bien sûr, mais c'est essayer de comprendre notre situation présente. Et ça, on a beaucoup de difficultés à le faire, si vous voulez. Je dirais, il y a une chose tout à fait surprenante actuellement, c'est que le général de Gaulle s'en tire. Il flotte là-bas, il est au ciel. Hein. Il n'y a rien d'opérationnel dans le gaullisme, mais l'image reste, si vous voulez. Et ça, il a, on peut pas rendre, on peut évidemment ne pas ne reconnaître qu'il a eu le coup d'œil génial en 1940 et qu'il a eu d'un certain côté un coup d'œil presque aussi remarquable en 58, en voyant le retournement de la situation qu'on pouvait opérer. Enfin bon, alors ça c'est, mais c'est très curieux. Il est en dehors de l'histoire, d'un certain côté. Cet homme d'histoire est en dehors de l'histoire. C'est tout à fait surprenant. Alors nous, où sommes-nous alors nous qui sommes dans ce bas monde et non pas au ciel comme lui, si vous voulez. Alors nous sommes dans une politique qui est purement négative, c'est-à-dire que la réalité de la politique, ce sont les mots qui sont commis. Et les gens qui souffrent, si vous voulez, qui en ont moins que les autres. Alors l'inégalité, toutes les formes d'inégalité coulent à flot dans la représentation que l'on a de notre situation. On ne sait pas trop comment faire pour venir à bout des inégalités, mais on ressasse qu'elles existent. À propos de l'immigration, à propos de tout et de n'importe quoi. Et alors il y a une mais la mauvaise conscience remplace la politique. Parce que le négatif, la politique, c'est le goût de l'avenir, dit Weber. Hein, mais quand il n'y a plus de goût de l'avenir comme maintenant, qu'est-ce qu'il en reste ? La mauvaise conscience.
La mauvaise conscience remplace la politique. Un dernier mot, François Jouvy.
Oui, j'ai un remords de vous avoir laissé l'un et l'autre démolir totalement le discours de Chirac de 95. Je voudrais prendre sa défense. C'est vrai qu'il y a de l'ambiguïté dans ce discours, mais en même temps, il faut reconnaître qu'il a eu le mérite, peut-être, de régler ce qui, à mes yeux, est l'inconvénient majeur de la politique gaullienne, gaulliste, au lendemain de la guerre, c'est-à-dire justement d'avoir déclaré nul et non avenu le régime de Vichy. Cette reconnaissance de Vichy, de l'état de Vichy, avec ses ambiguïtés, me paraît quand même avoir été importante.
Je pense que nous serons d'accord sur ce thème, mais j'aurais préféré moi-même, comme Paul Thibault, qu'ils disent l'état français.
Moi aussi.
Pour laisser une place à la France. Rome n'était plus dans Rome.
Je suis bien
voilà.
D'accord.
En tout cas, merci beaucoup à l'un et à l'autre pour cette discussion qui m'a passionné. Je rappelle, François Jouvy, le titre de votre livre, « Français, on ne vous a rien caché, la résistance Vichy, notre mémoire ». Il est publié chez Gallimard dans la collection NRF Essai. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « La Révolution française et la Vendée ». Mon invité sera Elisabeth de Fontenay. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Aurélie Marsay et d'Alexandra Malka. À la technique aujourd'hui, Nadège Antonini, dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.